Alors il faudrait étudier de près Noé. Hein. C'est important pour les nouveaux Noé, les néo-Noé. Là on voit l'alliance. Ce qui est important, c'est de voir que Dieu établit ses alliances successives. Et sans doute, nous avons successivement ces nouvelles alliances qui ne durent pas, qui chaque fois se corrompent. C'est très curieux, cette chose-là. C'est qu'on a l'impression que le devenir va toujours vers le bas. Ça croule. Et vous le reprendre. Et il y a un phénomène là qui, je crois, nous est donné pour que nous le voyons. Le phénomène que les alliances se font avec des personnes. Et ça croule en fonction de la nature blessée. C'est très net. Dieu dit... Voici le signe de l'alliance. J'ai placé entre moi et vous tout être vivant qui est avec vous pour les générations à jamais. Je place mon arc dans la nuée. Je place mon arc dans la nuée. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Luna ? Je place mon arc dans la nuée. Si Dieu suspensait ses punitions, sa lutte, qui désarmait et se désarmait pour nous. Et quand j'assemblerai une nuée au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Donc, la punition est sur les eaux, Dieu maintient les eaux, il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus que des averses. Quand l'arc sera dans la nuée, et en le voyant, je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair, qui est sur la terre. Donc c'est une alliance avec la vie. Je dis à Noé, tel le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair, qui est sur la terre. Donc l'alliance avec Noé, c'est une alliance avec le point de vue de la vie, l'immanence de la vie. Et Dieu relève toujours par l'arc qui réapparaît, l'arc, le signe dans le ciel, qui montre l'alliance avec Dieu. Se demander quel lien y a-t-il entre la vie et l'arc, puisque c'est très net. Avec Noé, c'est la vie. Alors, la vie a besoin d'être défendue. Je crois que c'est cela. Parce que la vie commence toujours par une très grande faiblesse. Pas seulement chez l'homme, mais chez l'animal aussi. La génération. Il y a comme une... Chaque fois que la vie progresse, la vie se prend quasiment à zéro, avec la très grande fragilité de la procréation et de l'éducation, alors il y a besoin d'un signe d'alliance avec Dieu. La vie chez les vivants, chez dans toutes les créatures, apparaît dans la fragilité au début. Vous voyez, Dieu fait cette chose merveilleuse de communiquer à des êtres créés, dépendants de lui, une indépendance vitale. Il y a quand même une remise au vivant d'être autonome pour engendrer, pour durer. Et cependant, il reprend toujours tout par la fragilité. Alors il y a l'arc. Plus Dieu laisse à l'homme dite initiative, plus il sent sa dépendance, sa faiblesse, sa fragilité. Plus il a besoin d'être protégé par Dieu. Et l'arc, c'est la protection de Dieu. C'est une alliance où Dieu dit « Je protège la vie ». Donc, Noé, ça doit être, ce point de vue-là, sentir que Dieu laisse aux vivants des initiatives merveilleuses. Il est le maître de la vie. L'homme n'est pas le maître de l'être, mais il est le maître de la vie. Ça va très loin, c'est tout ça. Parce que toutes ces philosophies qui ne remontent pas jusqu'à l'être et qui ne vont jusqu'à la vie sont des philosophies qui veulent exalter la puissance de l'homme. On n'est pas dépendant dans la vie, on est indépendant. Puisque c'est le propre de la vie, c'est d'avoir l'initiative, donc avoir une indépendance. Alors, il faut à la fois qu'on comprenne qu'on est dépendant de Dieu et qu'on a besoin que Dieu nous aide. Je crois que c'est ça pourquoi il y a l'arc. Ça a une signification. Hein. Dieu ne fait rien sans initiative, sans signification. Donc, on voit ensuite, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam, Yafet. Cam est le père de Canaan. Les trois sont les fils de Noé et c'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Donc, on voit la vie qui revient toujours et qui s'étend à tout. Avec Noé. Noé, homme du sol, commença de planter la vigne. Petite histoire, alors. Ayant du sol, il commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il s'enivra et se dénuda au milieu de Satan. Le père de Canaan vit la nudité de son père et en fit part à ses deux frères dehors, Sem et Yafet. Prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Comme ils avaient le visage tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. » Puis il dit « Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem et de Cam, soit son esclave, que Dieu dilate Yahvé, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Après le déluge, Noé vécut. C'est une scène très curieuse, très intéressante du reste. Ouais, symboliquement, elle est très forte. Parce que il y a d'une part l'expérience de Noé d'avoir produit le vin. Le vin, ça, à travers toute la Bible, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Hein, pourrait faire la charte du vin. C'est-à-dire de relever tous les passages de l'Écriture où on parle du vin. Il y a un symbolisme particulier pour le vin, puisque Jésus s'en sert. Donc, c'est finalisé par la scène, par l'Eucharistie, le pain et le vin. Et le vin a donné cette première expérience d'enivrer l'homme. On n'est pas coupable parce qu'il ne pouvait pas savoir au point de la prudence, il n'avait pas l'expérience. On est coupable, nous enivrer parce qu'on a l'expérience humaine. On sait que le vin enivre. Tandis qu'il y a une découverte de l'ivresse du vin. Et cette découverte de l'ivresse du vin a la conséquence, c'est que Noé perd sa dignité. C'est ça, c'est le point de vue de le père qui perd sa dignité de père. Et c'est le jeune fils dernier qui n'a pas eu le respect de la nudité du père. Donc, il y a quelque chose de tout à fait nouveau avec Noé. Au point de vue moral, et la nudité avec le péché joue. Mais avant la faute, il n'y avait pas de question. Avant la première faute, il n'y avait pas de question. Après la faute, c'est tout de suite la nudité. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça signifie quelque chose. Je crois que ça signifie le respect que l'homme et la femme doivent avoir vis-à-vis de la procréation. Avec la procréation, on touche quelque chose de divin. Qui a l'alliance avec Dieu pour la création de l'âme. Donc, il faut que ce soit protégé et que l'homme et la femme ne se laissent pas aller sur leurs instincts. Sans protection. Et que la nudité à l'égard du point de vue sexuel, Dieu veut que l'homme et la femme en aient le respect. Je crois que c'est tout ce qui est signifié par ça, symboliquement. Et que l'ivresse avait perdu ce point de vue-là. Puisque l'habillement s'est fait si tôt après le péché. Et c'est fait par rapport spécialement à ce point de vue-là. Et donc, nous retrouvons quelque chose du début, point de départ, comme si le vin remettait l'homme dans une condition première. Oui. Est-ce que ce n'est pas cela qui veut nous montrer qu'il y a, comme en nous, une nostalgie permanente de l'état premier qu'on était avant la faute. Tous ces essais de nudité qui existent, c'est au fond ça, c'est une nostalgie de retrouver comme une innocence première avant le péché. Et que le péché, tout spécialement, se porte là-dessus. En ce sens que l'homme se laisse aller à la passion et n'a plus le respect qu'il devrait avoir vis-à-vis de la procréation. Je crois que ces passages-là sont extrêmement importants pour essayer de saisir. Donc, Noé, c'est lié au vin. Et Noé est celui qui veut faire comprendre à ses fils le respect de la procréation. Et en même temps, le rappel que la conséquence du péché se porte spécialement vis-à-vis de la procréation, du rite sexuel. Alors, nous voyons toutes les générations qui continuent. Alors, ce qui est aussi très, très net, hein, ces alliances ne dure pas, mais le fait de la procréation, Dieu le laisse. Il y a toujours, vous voyez, l'origine des nations répandues sur la terre, après Noé. Et Noé en est la source. Nous arrivons à la tour de Babel. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Or, en partant du côté de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine au pays de Shinar-Kinéar. Et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Donc, invention d'un certain art, fabrication de la brique. Le feu et la terre. On cuit la terre. Allons. Faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur tint lieu de pierre. Donc, la pierre, elle vient de Dieu. Elle est naturelle. Alors, on va inventer, on va faire des pierres. Donc, ça qu'il faut montrer, ce qu'il faut découvrir, c'est grâce au feu, l'art va se développer et par l'art, la domination de l'homme sur le monde physique. Au-dessus du monde physique, il y a un autre monde qui se construit, le monde de l'homme. Il ne faut jamais oublier ce que dit Nietzsche. Quand on est dans la ville, on dit l'homme. Quand on est en haut d'une montagne, on dit Dieu. Quand on est sur l'océan, Dieu. Bon, et alors, c'est très intéressant de voir ce qui est noté là. Après Noé, tout va bien. Et quand tout va bien, l'homme a le temps d'inventer quelque chose de nouveau. Ils se disent l'un à l'autre, c'est dans le dialogue, c'est pas dans la contemplation. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ça, c'est très intéressant parce que c'est le facere qui devient beaucoup plus important, qui se développe grâce au feu. Il ne faut pas oublier. Du point de vue du feu, l'homme qui arrive à capter le feu. Et à s'en servir. Et le bitume, là, sur un lieu de mortier, ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne sommes dispersés à la surface de la terre. Cette domination par le feu sur la nature permet à l'homme, faisons-nous un nom, l'orgueil. Hein, le psaume qui dit qu'on met sur les terres le nom. Le nom est attaché à la propriété du sol. Le petit seigneur, il est lié au sol, à l'endroit même où il a bâti son château. Faisons-nous un nom pour qu'on soit reconnu. Donc, avec l'invention du feu et ce que le feu peut produire, il y a tout de suite cet orgueil, cet instinct de domination qui se fait sentir. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés à la surface. Donc on fait ça pour se défendre parce qu'on a peur. On a peur vis-à-vis du pays qu'on ne possède pas et qui est tout proche cependant et qui risque de venir auprès de nous. Yahvé descendit pour voir la ville. C'est la curiosité d'Yahvé. Évidemment, c'est l'anthropomorphisme. C'est tout le temps anthropomorphique la Bible, n'est-ce pas ? C'est parce que on comprend Yahvé en projetant nos sentiments sur Yahvé. C'est ça l'anthropomorphisme. Ça. Parce que normalement, la sagesse, tout vient de Dieu. Mais ce sont les mœurs de Dieu qui descendent sur la terre. Tandis que là, c'est les mœurs humaines qui viennent de Dieu. Et c'est ça qui est très curieux. c'est la science. Il y avait descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Il y avait dit, voici qu'à eux tous, ils sont un seul peuple et ont un même langage, un seul langage. S'ils ont fait cela pour les débuts, rien désormais pour eux ne sera irréalisable de tout ce qu'ils désireront de faire. Yahvé comprend tout de suite l'ambition de l'homme. Dès qu'il peut faire des briques, dès qu'il peut faire une bâtisse, il peut arriver à une bâtisse aussi puissante. Rien désormais pour eux ne sera irréalisable de tout ce qu'ils décideront de faire. À l'infini, allons, descendons de là, brouillons leur langage de sorte qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et Yahvé les dispersa de là, et à la surface de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. Voilà pourquoi on appelle du nom de Babel, car c'est là que Yahvé brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahvé les dispersa à la surface de toute la terre. Donc, punition de l'orgueil de l'homme par intervention directe. Mais Dieu met un holà au pouvoir de l'homme. Rien ne peut l'arrêter. Il y a comme un infini dans le fatuéré, un infini de construction, d'élévation. Alors, c'est Dieu qui ne veut pas cela et qui veut corriger cette espèce d'orgueil dans le fatuéré. Et la première manière d'empêcher l'homme d'être tout-puissant, de divier. Vous voyez, le mondialisme d'aujourd'hui, c'est d'arriver à l'unité de tous les hommes pour quelque chose de plus puissant. C'est pas pour que l'humanité contemple davantage, ce qui serait très bien. Le mondialisme pour que la justice s'établisse plus et qu'il n'y ait plus de personnes qui meurent de faim, ce serait très bien. Ça, c'est le mondialisme missionnaire. Mais le mondialisme humain n'est pas ça. C'est pour permettre d'aller plus loin dans le pouvoir, dans le fatuéré. Et Dieu l'a empêché au point de départ par le fait de la division des langues. L'homme essaie, au-delà de la division des langues, qui est la première division des cœurs. C'est sûr, l'enfant apprend sa langue, la langue maternelle, le lien avec la mère. Tandis que la division des langues montre une séparation radicale dans le développement de chacun, dans le développement des diverses. Vous voyez, c'est curieux à la fois cette économie divine de rassembler, et en rassemblant, il y a un danger de tout, d'un pouvoir plus grand, Dieu disperse. Je crois que c'est pour nous faire comprendre que le gouvernement de Dieu n'est pas le rassemblement pour le rassemblement, parce que le rassemblement pour le rassemblement ne peut tenir que par un pouvoir. C'est Dieu qui empêche ce rassemblement pour le rassemblement, et Dieu veut la division, première division, celle des langues et des cœurs. Pour que lui puisse davantage dominer. Une alliance nouvelle avec Dieu. Vous voyez, c'est l'alliance qui a été faite avec Noé qui est reprise. L'alliance de Noé va jusqu'à Abraham. Parce que la tour de Babel, c'est Dieu qui dit non. C'est purement négatif. Il y a une dispersion. C'est Dieu qui disperse. Dans toute alliance, c'est Dieu qui unit. Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je les maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. C'est une bénédiction toute nouvelle avec Abraham. Et vous voyez, c'est encore la personne. Ça reste l'alliance avec Noé qui va prendre une profondeur toute nouvelle avec Abraham. Ça va être l'alliance de la famille d'Abraham. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Par toi. Donc, la terre s'est étendue, tu vois, les habitants de la terre se sont étendus. Tout va être repris dans une alliance avec Abraham. Oui, ce qui est très curieux aussi, c'est de voir, Yahvé dit à Abraham. Alors, Abraham, il joue un rôle capital dans la providence de Dieu. Tout dépend de ce logos, de cette parole de Dieu. Et il n'est pas dit hein, le comment. C'est ça que je trouve de plus admirable. Aujourd'hui, quelqu'un dirait, Yahvé m'a parlé. On dirait à Dieu, mais comment ? Alors ici, c'est d'une simplicité extraordinaire. Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc, c'est l'acte de foi. Abraham à l'égard de la parole de Dieu. Et c'est cela qui est, je dirais, tout à fait nouveau, en ce sens que Dieu réclame d'Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père. Dieu choisit Abraham et veut qu'Abraham aille dans la solitude. Aille là où il sera seul. Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et alors, la promesse, je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Et non seulement Dieu bénit Abraham, mais je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je les maudirai. Donc, Abraham devient un signe vivant de la présence de Yahvé. Puisque on doit respecter Abraham comme on respecte Dieu. Et si on maudit Abraham, on est maudit de Dieu. Donc, c'est la première fois qu'on voit la bénédiction de Dieu s'incarner dans un homme de telle façon que les relations qu'on a avec Abraham, ce sont celles qu'on a avec Dieu. L'attitude qu'on a avec Abraham rebondit sur Dieu. Vous voyez, c'est en ça qu'Abraham est une figure toute spéciale du Christ. Première fois que ça ressort d'une façon aussi forte. Abraham s'en alla selon ce que lui avait dit Yahvé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, qui fils de son frère, tous les biens qu'il avait acquis et les gens qui s'étaient procurés. Ah. Ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, on donne toute l'histoire d'Abraham. Oui, c'est la famille qu'on va voir d'une façon beaucoup plus nette se préciser avec Abraham. On montre avant tout Abraham le conquérant. Cette chose très belle et très grande au chapitre 14, hein, la campagne des quatre rois. Comme Abraham revenait après avoir battu Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre ses mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Alors ce passage est très particulier d'Abraham avec Melchisédek, parce que Melchisédek n'est donc pas lié à Abraham selon le sang et la chair. Or Melchisédek va représenter symboliquement le sacerdoce du Christ. Tu es roi selon l'ordre de Melchisédek. Et on souligne bien que Melchisédek, donc, on ne sait pas d'où il vient, envoyé de Dieu, Abraham le salue, il lui fait la dîme soumission. C'est pour montrer que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce royal et non pas un sacerdoce lévitique comme le sacerdoce de ceux qui dépendent d'Abraham. C'est pour ça que ce passage est si important, même si actuellement dans la liturgie on ne parle plus beaucoup de Melchisédek et qu'on a mais une liturgie plus adaptée à notre temps, il faut se rappeler que pendant des siècles et des siècles, l'Église rappelait toujours « Tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek ». C'est pour ça que c'est si important, ce passage, de Melchisédek envoyé d'en haut, mais pas d'où. Et qui reçoit d'Abraham la dîme, la soumission. Alors je crois que c'est pour montrer justement le Christ descend d'Abraham. Et le sacerdoce du Christ n'est pas d'Abraham, mais de Melchisédek. Je vous salue, Marie, pleine de